Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 36e numéro du Player Club. Nous sommes le lundi 1er juin et ce soir on plonge dans l'univers des jeux financés par vous, les joueurs. Kickstarter, Ulule, KissKiss, BankBank, Indiegogo, que se passe-t-il quand vous avancez les bifetons? Pour répondre à cette question, je reçois BlazingsBoob de Indius.org et Naufrag, ainsi que Jeff du podcast Geeking et de l'autre podcast Ask My Bakers. Pendant une heure, on va causer des jeux qui se sont financés par ce biais, mais aussi des campagnes de dons qui ont lieu actuellement ou qui se sont terminées tout récemment. Donnera ou donnera pas, eh ben on verra. Hésitez surtout pas à réagir au hashtag le Player Club puisqu'on dira vos réactions et on répondra bien évidemment à vos questions.
De 21h à 22h, le Player Club.
Ce soir donc avec moi, Jeff, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans le Player Club.
Merci.
Et BlazingsBoob, alors on y va comment? BlazingsBoob, les deux
alors,
en même temps.
Je peux dire Valentin, c'est très bien. Ou alors
ah, Valentin.
Valentin, c'est parfait.
C'est beau, par ton prénom. Eh bien, on va aller sur Valentin dans ce cas-là. Très bien, très bien. Jeff et Valentin, on va rouler comme ça. La première question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est une question d'ordre général, avant de plonger directement dans différents projets, de voir ce que ça a apporté au jeu, de voir un peu quel jeu c'était, de comprendre un petit peu les circonstances de ce financement participatif-là par des cas particuliers. On va donc prendre une question plus générale. Est-ce que les jeux et les projets Kickstarter, Ulule, etc., de manière générale, qui passent par le participatif, en dépendent vraiment totalement? Autrement dit, quand la campagne est de 30 000 euros, est-ce que c'est les 30 000 euros nécessaires au développement du jeu, ou est-ce qu'il y a des subtilités?
Alors,
qui voulait la parole?
Qui veut répondre en premier? Alors, c'est ça que je me demande.
N'importe, mais je suis galant. Je vais laisser passer les autres. Je parlerai après.
Allons-y. Alors mon avis là-dessus, c'est que le financement participatif déjà permet d'avoir, je pense, des fonds complémentaires à un budget que les studios justement ont déjà à la base. On ne pense pas dans la création d'un jeu vidéo les poches vides. Et bien souvent, l'argent des consommateurs des joueurs en l'occurrence, permet de compléter voilà le budget d'un studio et de d'inclure au jeu des features supplémentaires mais bien non, enfin bien souvent le crowdfunding ne permet pas à 100% je pense de financer la création d'un jeu. Les studios ont des mesures à côté qui permettent aussi de financer le jeu par leur poche, et c'est aussi pour ça qu'on voit parfois des campagnes de financement échouer et des jeux sortir malgré tout.
Donc c'est souvent soit la part manquante d'un puzzle qui est déjà en partie constitué, c'est parfois aussi... j'aimerais poser la question à Jeff, j'ai entendu dire que beaucoup de Kickstarter, de crowdfunding, finalement c'était pas mal pour travailler sur la communication et pour dire « mon jeu existe, si vous aimez bien le genre, si ça vous parle, ça nous permet déjà de voir s'il y a un public et finalement déjà de vendre des clés, déjà de vendre des exemplaires du jeu à l'avance ».
Tu pointes le doigt sur quelque chose qui, à mon sens, est très important. Le financement participatif, à la base, c'était quelque chose de purement financier. On met de l'argent dans quelque chose, c'est juste une manière de ramener du pognon. La part faible de ce truc-là, ça a été de se dire, oui, ben en fait, ces mecs-là, ils viennent ici pour nous parler et pour nous présenter un projet que, en gros, ils ont présenté ailleurs et que personne n'a accepté. La bonne chose, disons, c'est que maintenant, le financement participatif a tellement un penchant suivi, et on est tellement en train de suivre ce genre de projet via les nombreux jeux qui sont sortis dessus, que c'est devenu d'un côté un moyen de financer son jeu avec une communauté, etc., mais aussi de faire de la promo et d'avoir une certaine visibilité pour le projet ou le jeu que tu présentes, ça c'est clair.
D'accord, effectivement. Toujours sur cette question finalement de l'importance du financement, on a vu, tu nous as dit il y a un instant, Valentin, donc que parfois il y a des jeux donc qui sortent malgré le fait que la campagne s'était pas montrée fructueuse. On va en voir quelques cas dans un instant. De manière générale, ça pose un problème éthique, moral auprès des joueurs. En termes de confiance, est-ce qu'on a vu des boîtes se griller comme ça?
Se griller, je ne pense pas. D'ailleurs, bien souvent, les joueurs déçus de l'échec de la campagne se réjouissent de la sortie du jeu, puisqu'ils peuvent malgré tout y jouer. Donc non, je pense pas que nécessairement les boîtes se grillent malgré un Kickstarter ou une campagne de financement foirée.
D'accord, parce que c'est marrant, en préparant l'émission, intuitivement je me suis dit, attends, quelle campagne de crowdfund aurait pu bien se planter, et j'ai pensé, mais j'ai eu tort évidemment, parce que le jeu n'est pas passé par le crowdfund, j'ai pensé à Godus de Peter Molyneux et de 22 Cans, qui là, par contre, s'est planté sur un modèle économique émergent, mais qui est pas celui du financement participatif, mais qui est celui de l'alpha que tu vas mettre déjà à disposition avant la
l'accès
sortie
anticipé.
Du jeu. Anticipé, voilà.
Figure-toi que Godus a fait un Kickstarter néanmoins.
Non.
Ah si, il a fait un Kickstarter.
J'ai mal fait mes recherches. Ils l'ont fait au départ.
Alors, je vais te retrouver la date précise directement. Il l'avait lancé en novembre 2012.
D'accord.
Ouais, j'étais tombé là-dessus à l'époque. Et d'ailleurs, ils ont même réussi ce Kickstarter à hauteur de 500 000 livres sur 400 000.
C'est quand même... la question a déjà été traitée 10 000 fois concernant Godus et c'est pas l'objet de cette émission. Mais c'est marrant qu'intuitivement, déjà, je m'en suis souvenu. Puis ensuite, je me suis dit non, eux, c'est plus l'accès anticipé. Parce que c'est justement là-dessus qu'il y a eu toute la polémique de finalement, le jeu n'avance vraiment pas et c'est un problème parce que des gens déjà payaient pour le jeu, l'objet jeu, plutôt que qu'une promesse de don, avec une contrepartie. Donc, c'est quand même marrant de voir que malgré toutes ces tentatives de financement, effectivement, le jeu a eu beaucoup de peine. Toujours sur l'histoire de Godus, si tu voulais...
Oui. Il y a un double tranchant, à mon sens. C'est pas que sur Godus. Bon, le problème de Godus, c'est que il y a Peter Molyneux dans l'histoire qui est un personnage très médiatique dans l'univers du jeu vidéo. Et malheureusement, dès que celui-là dit quelque chose, on a tendance à beaucoup l'écouter, à beaucoup parler et écrire sur ce qu'il fait. Et malheureusement, ça prend pas mal de proportions sur son avis, qui est pas forcément... même si c'était un super pont du jeu vidéo, c'est quand même maintenant plus grand-chose, ce mec-là, enfin selon moi. Mais le financement participatif, tu vas demander à des gens de participer à ton jeu, même si t'as des paliers de participation différents avec des types qui sont capables de mettre quand même un peu plus de pognon que ton pledge à une espèce de 10 ou 15 balles.
Ouais.
Ce qui est intéressant de penser là-dedans, c'est que quand le jeu se casse la gueule, les gens se rendent pas de compte que ce que tu as fait, c'est pas acheter un jeu, c'est soutenir un projet, c'est investir dans une idée de ce que serait potentiellement quelque chose.
Ouais.
Et bon, je sais pas pour les États-Unis parce que je suis pas américain, mais ils ont une culture de l'investissement qui est quand même un peu plus un peu plus proche du capitalisme moderne que la nôtre, mais je sais qu'en France cette idée-là a vraiment du mal à passer. J'ai l'impression qu'en France, quand il y a quelque chose qui se casse la gueule, les gens sont vraiment là à se dire mais attends, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors que tu dis t'as investi, t'as donné du pognon, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher.
La question de la France est très intéressante, on y reviendra vers la fin de l'émission. Histoire de justement un peu mieux comprendre ce que ça a apporté à certains jeux, et pour pas brosser le portrait caricatural du financement participatif, j'ai sélectionné là pour jusqu'à 21h30, on va voir à peu près des jeux, et même un projet qui n'est pas directement un jeu, mais des jeux qui ont connu un plutôt bon, voire même un très bon succès critique, et qui ont tous été financés par le participatif. Et le premier d'entre eux, c'est Shovel Knight, qui est donc sorti l'an dernier, qui est récemment sorti en boîte, je crois, sur 3DS. C'est donc ce jeu de plateforme à mi-chemin entre, on va dire, le bon vieux DuckTales, le Megaman aussi sur certains aspects, très sympathique. Le crowdfund a permis plein de choses. Il a permis d'ajouter un New Game Plus, il a permis d'ajouter des versions Linux et Mac, mais aussi, des modes supplémentaires. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Pour vous, Shovel Knight, ça aurait pas pu se faire de la même façon sans le participatif. Je pense que vous y avez joué. C'est quand même un jeu qui a une bonne aura. Ouais.
Du tout, j'y ai pas
du
joué.
Du tout. Alors, perso, j'ai fait le jeu. Mm-hmm. Très bon d'ailleurs, très très bon. Et il a aussi oui. très bien marché. Preuve que voilà, le financement participatif peut amener des choses extrêmement intéressantes. Pour répondre à ta question, je pense pas forcément que le jeu aurait pu atteindre un tel degré de finition sans le crowdfunding, dans le sens où, comme tu l'as dit, ça te permet d'ajouter énormément de choses. Maintenant, je pense qu'il aurait effectivement pu être possible de sortir un jeu, pourquoi pas via le modèle de l'accès anticipé. Alors, je sais pas si les développeurs, c'était quelque chose qu'ils auraient voulu faire, mais sortir une base d'un jeu qui était déjà pas mal suivi et qui intéressait déjà les gens. Maintenant, non, je pense pas qu'il aurait pu atteindre un tel degré de finition sans une campagne de financement, puisqu'il a récolté près de 4 fois la somme demandée, je crois. C'était assez impressionnant.
Oui. Oui, une autre caractéristique du crowdfunding de Shovel Knight, c'est qu'entre le moment où il y a eu la campagne et le moment où le jeu est sorti, il y a eu un long gap de temps, un long espace. Enfin, on a vraiment attendu plusieurs mois, voire même, je crois, quelque chose comme un peu plus d'une année, hein, quand même. Ils avaient sorti une petite démo pour les backers. Donc, on rappelle, les backers, c'est les gens qui ont donné de l'argent pour. Et quand on parlait il y a un instant de pledge, c'est une promesse de don. Qui est ensuite engrangé lorsque la campagne est terminée et que ça le fait lorsque si la campagne a atteint le nombre de promesses de dons fixé à la base par la personne qui a créé le Kickstarter, le Ulule, etc. Donc un si long espace de temps, est-ce que ça peut être problématique? C'est une question de communication quand même importante parce que les gens ont mis de l'argent dedans et soudain il s'écoule plusieurs mois avant que le jeu ne sorte concrètement.
Si Jeff a quelque chose à dire par rapport à ça.
Disons que le gap de temps correspond quand même à la maturité que tu as sur le projet. Déjà, quand je parle de ça dans un terme très générique, hein, ça s'applique à Shovel Knight, mais sur beaucoup d'autres projets. Ouais. Parfois, quand on a un projet Kickstarter qui se crée, il est à différents niveaux d'avancement. Pour certains, c'est vraiment purement qu'un projet. Pour les autres, ça va être déjà une alpha technique. Donc, il y a quand même déjà eu une réflexion sur l'aspect direction artistique, etc. Je pense que la maturité de temps, à partir du moment où elle est expliquée aux gens et surtout qu'elle est bien, entre guillemets, anticipée, dans le sens où si le jeu sort... Je me souviens que Shovel Knight, c'était sorti prévu en 2013 et t'as dit qu'il était sorti en 2014.
Oui, ça fait erreur. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression...
Il y a une année de, entre guillemets, retard, quoi. Donc... Ouais.
Oui, initialement prévu pour septembre 2013 et sorti en juin 2014 pour être très précis.
Ouais, c'est sûr que voilà, c'est ça le problème de ce genre de truc, c'est que il faut à mon sens prévoir aussi la capacité qu'ont les gens de pouvoir réaliser le projet dans les temps. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Après, est-ce que c'est parce que ils ont vraiment voulu mettre ça sur toutes les plateformes, etc. Ça, je sais pas ce qui s'est passé dans le développement. Malheureusement, j'ai pas assez suivi le développement du projet dans les détails pour pouvoir servir une analyse là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut poser un problème s'il n'y a pas cette espèce d'anticipation de la date de sortie.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu l'avais dit, vous l'aviez dit, je ne sais plus exactement lequel de vous deux l'a dit, en tout cas, que le jeu a été très très bien soutenu financièrement, 3 ou 4 fois la somme qui était prévue initialement. Et le fait qu'ils aient beaucoup de budget fait aussi qu'ils ont beaucoup de budget à dépenser, et c'est du temps humain à passer sur le jeu, pour le coup. Donc, ça peut repousser parfois le jeu si on se dit, on va mettre plus de contenu, on va perfectionner un petit peu plus de trucs. Effectivement, ça demande aussi parfois, ça multiplie le temps de développement. Et cette question-là, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que le prochain jeu que j'avais prévu sur la liste, c'est Elite Dangerous. Et le petit truc d'Elite Dangerous, c'est quand même 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. Là, quand on voit un jeu atteindre des sommes pareilles, on se pose des questions. Je veux dire, aussi bien côté développeur que côté journaliste ou même que côté joueur d'ailleurs, en parenthèse. Mais quand on voit en gros un budget qui commence à ressembler, en tout cas dans la tête des gens, on commence à parler de millions d'un budget vraiment de l'industrie de manière très classique, comparable à ce qu'un éditeur pourrait mettre dans un petit ou dans un moyen jeu. Ça donne quelle impression, ça?
Pour prendre l'exemple de Elite, bon là c'est vrai que là tu commences par rapport à Shovel Knight, il y a clairement beaucoup plus d'argent là-dedans, mais c'est là que tu sens quand même qu'il y avait une équipe quand même un peu plus grosse dessus, avec des types qui avaient peut-être un peu plus d'expérience pour réaliser ce type de jeu, du moins de pouvoir sortir des objectifs qui étaient quantifiables et qui pouvaient dire voilà, ça sortira à tel moment, etc. Puisque je crois que la livraison prévue, elle a été respectée, quoi. Je crois que c'était ils avaient prévu de le sortir début 2014 et c'est sorti début 2014, quoi. Donc ils ont parfaitement suivi leur truc. En ce qui concerne le pognon,
ouais.
J'adore cette formulation là. Ça commence super bien. C'est... En ce qui concerne le cash et la maille, oui.
En ce qui concerne le blé. En ce qui concerne le blé, c'est clair que ça peut être à double tranchant. On peut se retrouver avec des projets qui se perdent énormément là-dedans. À cause des stretch goals. Donc, les stretch goals, pour rappeler, c'est des supplémentaires si le projet dépasse la valeur maximale qu'il avait prévue. Voilà. Une chose qu'on c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, hein, ou la chantilly, ça dépend. Et du coup, ça peut poser problème dans le sens où on rajoute de l'argent, on rajoute des délais, etc. Les gens vont dire ah non, mais moi je préférais avoir ça avant, etc. Et en plus de ça, c'est plus simple de se péter la gueule avec 33 000 $ qu'avec 2,5 millions $.
C'est clair que si le jeu est mauvais après 2 millions $ mis dedans, c'est un petit peu problématique.
Ah ouais.
Deux tweets rapidos sur le hashtag le Player Club. Celtar qui nous dit, et pendant ce temps-là, Hyper Light Drifter n'est toujours pas sorti. Et avec une petite larme. Avec une
exactitude.
Un petit emote larme. Et Lion's Banner nous dit, Too Dark a mis des mois à sortir une première version alpha, mais elle est enfin là. Voilà. Tenez, monsieur, surveillez bien, monsieur Renal, effectivement.
Alors, d'ailleurs, un truc à ajouter par rapport à ce que Jeff disait, justement, par rapport à Elite, justement, pour en revenir à la question que tu posais en premier lieu, si les projets étaient entièrement financés par le crowdfunding, justement, dans le cas d'Elite, je pense que, comme Jeff l'a dit, c'était une équipe qui était déjà installée, qui avait déjà fait ses preuves et qui travaillait sur le projet depuis de très 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 nombreuses années. Et le Kickstarter de Elite, selon moi, a avant tout servi à faire de la com pour le projet, qui est avant tout un jeu de niche, quand même. Et donc du coup là, ça a permis de le révéler au grand jour plus qu'il ne l'a jamais été. Et j'avais lu justement un article, je crois que c'était de Eurogamer à l'époque, dans lequel les développeurs disaient que le Kickstarter de Elite n'avait servi qu'à financer qu'un quart du projet total, je crois. Donc on voit bien qu'ils avaient déjà prévu les trois quarts de leur poche et justement de leurs précédentes expériences dans le milieu. Donc il y a des Kickstarters comme ça qui servent, selon moi, avant tout à la com. Et c'est, je pense, dans les exemples de jeux que tu citeras plus tard, il y en aura d'autres qui pourront revenir sur le sujet.
N'hésite pas à les relever, ce sera très intéressant.
Au-delà même de ce que tu racontes, je peux juste me permettre une dernière punchline, pour moi, le Kickstarter de Elite Dangerous, c'est non seulement un Kickstarter qui a permis de le mettre en avant, mais c'est même un Kickstarter de mode. On passait juste après le financement de Star Citizen et on était en train de parler de Yves Valkyrie, etc. Donc pour moi c'est tellement, il est tombé pile au moment où il fallait, quoi.
Donc
on était clairement dans ce mode là.
Très bien. Un jeu qui n'a pas grand-chose à voir, c'est Risk of Rain, qui a aussi été financé par ce moyen-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est assez typique du côté un petit peu... on va proposer quelques tirs supplémentaires après, donc objectifs supplémentaires une fois que la somme prévue à la base a été atteinte. Mais très rapidement, Risk of Rain a dit « Bon... » Enfin, les développeurs de Risk of Rain ont dit « Bon, à partir de là, vous pouvez continuer à donner, mais on va simplement développer le plus de contenu possible. » Ça, en fait, c'est très très vague. Ça recouvre quoi? Alors, pas nécessairement pour Risk of Rain, mais c'est le côté un petit peu, c'est du polish de jeu, c'est aussi du debug, ou c'est vraiment feature et du contenu de jeu?
Je pense pas que ce soit entièrement des features. Il y a forcément, faut pas oublier que même si on fait un Kickstarter pour un jeu, ça reste un jeu qui suivra le modèle de développement classique. Une fois qu'on a l'argent, on travaille. Comme Jeff disait, il y a
Il y a des Kickstarter quoi, là, qui proposent aux gens de donner de l'argent à différents stades d'avancement de projet. Risk of Rain avait déjà, si je dis pas de bêtises, un prototype jouable à l'époque du Kickstarter. Donc il permettait déjà aux gens
ils avaient une alpha technique ouais, de mémoire.
Exact, ouais, enfin, je sais plus si c'était une alpha ou une bêta, mais ils avaient une version jouable qui permettait justement aux gens de se faire une idée. Et donc après, à partir de là, dans la mesure où ils avaient récolté, alors je sais plus exactement, voilà, donc je vois les chiffres, c'est 30 000 $ sur un objectif de 7 000 à la base. Ça leur a permis, voilà, d'inclure pas mal de features, et comme tu l'as dit, de pledge et de stretch goals.
Donc, surtout qu'à la base, ils avaient un objectif de 7 000. Je me mets dans la peau de ces mecs-là parce que c'est, ben, si tu vois sur un projet à 7 000 $, c'est quand même que c'est des petits mecs dans leur cave, hein. Il faut être clairement, honnête à un moment donné.
Clairement.
Tu te dis que quand tu chopes, je crois que c'est, enfin, quand tu arrives à avoir autant de fois ta mise, ou du moins ton objectif de base, etc., tu te retrouves à un moment, bon ben attends, on va rajouter ça, et puis c'est tout quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ils pouvaient plus quantifier ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ben écoutez, avec le pognon que vous nous filez, on va essayer de faire le maximum. Je pense que c'est de l'honnêteté pure et simple quoi.
Je pense aussi que c'était une époque à laquelle Kickstarter n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc 7 000 $ à l'époque, voilà. Enfin, si aujourd'hui un développeur lance un Kickstarter à 7 000 $, si le projet est aussi prometteur que Risk of Rain, ça se fait en pas si longtemps que ça. Et les mentalités étaient à l'époque aussi peut-être différentes par rapport à maintenant. Les gens se méfiaient peut-être un petit peu moins. Donc là, voilà, il avait récolté une somme très intéressante. Donc peut-être aussi pour ça.
Je me rappelle plus exactement. Ça coïncidait pas avec l'époque de la mise en place du Greenlight sur Steam.
Si, c'était fin 2012,
Greenlight. Donc c'est pas loin, ouais.
Un jeu qui n'a pas grand-chose à voir, on retourne un petit peu dans l'espace avec Faster Than Light, et ce qui est très intéressant, là, c'est qu'ils avaient absolument rien annoncé. C'était le côté un petit peu calviniste du Kickstarter, puisque au-delà du premier objectif, bah, que dalle, c'était simplement, bah voilà, le jeu est financé, et allez voir ailleurs. Ce qui est assez amusant quand même, c'est que Faster Than Light a sorti un DLC qui est gratuit.
C'est gratuit, ouais.
Tout à fait, et sur tous les supports, ils ont sorti une version iPad. Là, c'est un cas de figure encore différent. Cette stratégie-là, elle peut être payante, de dire aux gens, bah finalement, donnez pas plus.
En même temps, c'était objectif 10 000 $. Ils ont récolté 200 000 à la fin. Plus, il faut dire que le jeu était très bon et a eu énormément de comment ça s'appelle, de bonnes reviews, etc. Ce qui fait qu'il a eu un très gros succès marketing. Il a eu de très grosses ventes, etc. Je pense que les mecs se sont dit ça de façon old school. Vous aimez le jeu, on va vous en donner un peu plus, quoi. Mm-hmm. Vous avez déjà les tartines et on va vous filer un petit peu de confiture, quoi. C'est ça.
Ah oui, clairement, c'était tout bénef pour eux, hein. C'est aujourd'hui considéré comme l'un des jeux indés les plus connus. Enfin, c'est l'un des jeux indés les plus appréciés qui sont sortis jusqu'à présent. Il est très très très, comment dire, très apprécié par la communauté. Voilà.
Dans le même genre, sauf si je raconte une connerie, il y a Don't Starve qui est en train de développer son mode Together et qui va le mettre gratos quand il sera prêt, celui-là.
Oui, voilà, clairement.
En fait, mais ça ferait pareil.
Lorsqu'un studio, je pense, arrive à un stade où voilà, leur jeu a un tel succès que ça les dépasse complètement, les devs de FTL, ils étaient complètement dépassés par les événements, ils avaient fait leur objectif en seulement 24 heures, je crois, et à la fin, voilà, comme tu l'as dit, 200 000 $ sur 10 000, c'était ahurissant, ils étaient totalement dépassés par les événements. Il y a un moment où, puisque la communauté les suit, et puisque leur jeu a un succès phénoménal, ben autant qu'ils offrent tout gratuitement, enfin, s'ils ont envie de faire un DLC, ben autant le donner gratuitement, ce sera que bénéfique pour le jeu. Donc je pense que non pour moi c'était le bon move, déjà d'un point de vue marketing, et aussi pour les joueurs. Voilà, c'est tout bénéf à la fois pour eux et pour les joueurs.
Alors, un jeu qui a été assez honnête avec les personnes qui l'ont financé, c'est Thomas Was Alone. Alors c'est beaucoup moins il a eu beaucoup moins d'appréciation critique ultra positive, il faut être très honnête, hein. Il a eu une presse assez mitigée en face de lui. C'est ce petit jeu dans lequel on fait sauter des cubes. C'est un petit jeu entre le platformer et le puzzle 2D, avec une voix narrative un peu à la, je dis bien de très loin, hein, l'idée de la voix narrative un peu à la Stanley Parable Parable, mais sans le dernier Stanley Parable derrière, pour le coup, comment dire, le Kickstarter a été fait pour financer et payer la voix off, les frais marketing, diverses dépenses liées aux droits d'auteur. Le gars qui a fait ça a été hyper transparent. Est-ce que ça n'a pas été, dans le domaine du jeu vidéo, un des Kickstarter les plus honnêtes, finalement?
Alors déjà, je sais plus si c'est un Kickstarter, je crois que c'était un Indiegogo.
Un Indiegogo, exactement.
Si je dis pas de bêtises. Donc comme tu l'as dit, qui a servi à financer les frais, enfin finaux, je pense, si je puis dire, du projet.
C'est le côté, les amis, je voulais faire mon jeu dans mon coin, mais là, ça coince.
Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il voulait pas faire ça au début, je pense qu'à la fin, lorsqu'il a voulu engager le, c'était Danny Wallace, voilà, qui est un mec super super connu quand même au niveau doublage, qui avait été nominé au BAFTA et tout. C'est quelqu'un de super important dans le milieu des voix off. Mm-hmm. Et lorsqu'il a voulu l'engager, ben ouais, il s'est dit ah, ben ouais, finalement ça coince, j'ai pas d'argent. Et je me souviens avoir vu sur les forums à l'époque que pour lui, les voix off dans son jeu, c'était un passage nécessaire, obligatoire, pour que le jeu sorte vraiment comme il le voulait. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de faire un Indiegogo qui n'était pas extrêmement important. Hein. La somme, je l'ai plus en tête, mais c'était pas quelque chose de vraiment vraiment ambitieux. C'était juste pour boucler finalement le projet et engager la voix off et faire les, comme tu as dit, le marketing. Voilà, 2000 livres. J'ai les chiffres, donc c'est rien du tout.
Bouchée de pain.
Voilà, clairement, mais juste pour engager la voix off qui était vraiment obligatoire au projet, et là on l'a bien vu. Je sais pas si toi Jeff t'as fait le jeu, mais perso je l'ai fait, mais enfin la voix off, pour moi c'est clairement quelque chose. Voilà, si ça avait pas été là, le jeu aurait perdu une grosse partie de son charme. Et voilà, c'était une bonne décision de faire une campagne de financement justement en complément de son travail personnel, et ça lui a permis voilà d'avoir le succès qu'a mérité son jeu. Et voilà, aujourd'hui il bosse sur un autre projet qui s'appelle Volume, si je dis pas de bêtises, et là il ne l'a pas financé par le financement participatif, dans la mesure où Thomas Was Alone a eu suffisamment de succès, il s'est permis de se lancer pour ses projets perso, et ça c'est intéressant.
Exactement, il développe le jeu Volume maintenant d'ailleurs, si je ne fais erreur, qui sortira sur console Sony. On a vu un trailer, je sais plus si c'était à l'E3 ou à la Gamescom ou aux deux. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous de campagnes qui ont eu lieu et de produits qui sont déjà sortis, c'est pas un jeu vidéo mais c'est un film sur les gens qui font des jeux vidéo, c'est Indie Game The Movie. On a tendance à oublier que le documentaire a été financé en partie par la communauté.
J'avoue que j'ai oublié.
Ce qui est très intéressant dans le cas d'Indie Game The Movie, c'est qu'on a encore une autre variante en ce qui concerne l'utilisation des fonds et la collecte, puisque après avoir récupéré la somme de base, ils ont exprimé le désir de collecter plus, éventuellement même via d'autres sources que le Kickstarter ils avaient mis en place. Donc que toute donation, et là on revient sur quelque chose de classique, toute donation permettra de faire un meilleur film, d'enregistrer plus, d'avoir des meilleures caméras, un meilleur son, etc., etc. Là, dans cette idée finalement de donner de l'argent, puis de se retrouver dans la situation où la personne dit, bah finalement, c'est chouette, mais je vais vouloir plus. On n'est pas dans le cas de figure où une énorme société a repris le projet, évidemment, mais c'est pas déjà un petit peu, en termes de confiance par rapport aux backers, c'est pas un petit peu gênant déjà, pour utiliser ce terme?
Disons que c'est là que le problème, à mon sens, du financement participatif a sa limite. C'est là qu'il rentre en opposition avec un modèle plus simple où on a des investissements donnés par une entreprise, etc. C'est à mon sens beaucoup plus simple de parler à des actionnaires et de leur dire ben voilà où on en est, voilà ce qu'on a fait, etc. avec l'argent que vous avez. On a du retard, mais regardez comment ça avance et regardez ce que ça pourrait devenir si vous mettiez un peu plus de pognon. À mon sens, on a plus de facilité à faire ça, à discuter avec un interlocuteur financier dont on sait le travail, que des joueurs qui vont pas forcément comprendre que bah le projet était fini, moi j'ai donné l'argent, ils ont dit qu'ils avaient 35 000 $, que c'était bon pour eux, je comprends pas pourquoi on redonnerait des sous. Voilà, c'est à mon sens un petit problème qu'on a avec le crowdfunding, c'est qu'il y a un petit manque de souplesse sur les rallonges et éventuellement les extensions de temps ou de financement qui pourraient être demandées.
Comme on
Oui, complètement vas-y. D'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Jeff et sur des réalités, justement, tout ce qui est Kickstarter et Indiegogo et financement participatif, ça met finalement les consommateurs au plus proche des créateurs, donc ça c'est beau, mais ça efface aussi pas mal de réalités, et ça, comment dire, ça permet pas forcément aux consommateurs de se rendre compte de beaucoup de réalités financières. Et voilà, bah, comme l'a dit Jeff, il arrive souvent lorsqu'on crée un jeu ou lorsqu'on fait un projet, là en l'occurrence de film, qu'on ait besoin d'argent en plus et que finalement on n'arrive pas à boucler le projet, ou alors on a d'autres idées et on a besoin de davantage de ressources pour finir le projet. Mmh. Et via le financement participatif, voilà, les consommateurs se disent ouais, ils ont eu tout l'argent, pourquoi est-ce qu'ils nous redemandent? Alors que finalement, s'ils n'avaient pas forcément eu recours à ce biais-là, du participatif, hein, ils auraient pu demander de l'argent à quelqu'un d'autre, voilà, ils auraient pu avoir recours à d'autres moyens dont personne n'aurait eu vent, puisque finalement le projet n'aurait pas été suivi par tant de monde s'il n'y avait pas eu le participatif, ça, c'est évident. Mais donc justement, ouais, c'est ça qui est un peu dommage avec le participatif, c'est que ça biaise un peu la vision du public et ils s'attendent à avoir le produit. Voilà, déjà tout prêt, déjà tout fini à la date demandée, alors que voilà, ça reste un projet, ça reste un mode de financement comme un autre, et c'est sujet forcément à des imprévus et parfois justement à des demandes de rallonge, et voilà.
On va pouvoir rapidement prendre une question d'auditeur. Helmut McTroll qui demande pourquoi le When It's Done est salué dans le cas de Rockstar Blizzard et conspué dans le cas des projets Kickstarter. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question?
Bah, je pense que Blazing a déjà Blazing. Je me souviens plus de ton prénom.
Valentin.
Excuse-moi. J'allais t'appeler Vladimir. C'est pas vraiment pareil.
Vladimir, c'est pas mal. Hein.
On va venir après à Vladimir. T'inquiète pas.
Le mec qui joue trop à League of Legends. Donc non. En fait, le When It's Done. On aime beaucoup les sociétés de jeux vidéo, Rockstar, Blizzard, il y a une tonne de fanboys, une tonne de gens qui, comme moi hein, d'ailleurs, hein, sont fans de ce genre de boîte et sont fans des produits qu'ils créent, mais à partir du moment où on fait un Kickstarter, tu crées une communauté, tu crées des gens qui se renseignent sur ton jeu, qui se renseignent qui tu es, et en général, le fait d'être proche, d'avoir cette proximité, je pense qu'il y a un peu moins de... Étant donné qu'il y a la proximité, tu te permets en fait de dire des... Tu peux facilement critiquer une personne qui est proche de toi, un membre de ta famille, etc. Tu vas facilement pouvoir lui dire, écoute, je pense que ça, c'est pas très bien. En revanche, la dame que tu verras dans le métro, tu vas pas lui dire, écoutez, je pense que franchement, votre couleur sur les ongles, tu vas rarement lui dire. Donc voilà, à mon sens, c'est la proximité qui fait que tu es moins tolérant sur ce genre de petits détails.
Tu te permets plus de choses. Très bien. Jeff, Valentin, vous ne bougez pas. On va se faire une petite pause musicale. Il s'agit de Interstellar Sasuke 5 Ever, un mix de 3D Pinball Space Cadet. Mais oui, c'était sur Windows 95, voyons. On revient dans 3 minutes en direct dans le Player Club.
I said a long, long time ago, in a galaxy far away. Tell you about the universe. There's nebulas, black holes, supernovas. So you better hop on the Enterprise. I said you
21h à 22h, le Player Club.
Vous écoutez toujours le Player Club en direct jusqu'à 22h. Réagissez au hashtag le Player Club. Si vous devez nous quitter, bah oubliez pas de toute façon, pour le direct je dis, hein, oubliez pas que vous pouvez podcaster, télécharger l'émission sur radiojv.com. Et n'oubliez pas aussi que ce soit en direct ou en différé, vous pourrez vous enchaîner le Pass le Stick de ce soir qui aura lieu à partir de 22h, juste après le présent Player Club. Voilà, voilà, voilà. On continue à parler des jeux à financement participatif avec Jeff et avec Valentin, et on attaque maintenant les jeux qui sont actuellement en train de récupérer des sous-sous ou qui ont récupéré des sous-sous mais dont le jeu n'est pas encore sorti, pour voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là de la barrière. Et on commence avec Bloodstained Ritual of the Night, qui a été annoncé, c'est un des plus récents qui a été annoncé, faut bien admettre, donc une sorte de Castlevania-like, même de Metroidvania, avec, alors, dans les choses qui sont promises, si jamais on dépasse la somme prévue est d'ailleurs déjà dépassée, on a notamment la voix off David Hayter pour faire la voix de probablement du héros, j'imagine. Donc c'est un fétichisme assez économisant finalement, des nouveaux modes, un nouveau niveau supplémentaire, des guest compositeurs à gogo. Ça commence à prendre des proportions assez folles. Ça aurait pas pu être financé par un éditeur, ça?
Alors là-dessus, c'est intéressant que t'en parles justement, parce que c'est un type de Kickstarter qui est pour moi assez, enfin une mode qui est assez récente. Alors déjà à la fois c'est le fait de relancer des vieux projets. Là en l'occurrence c'est clairement un Castlevania. D'ailleurs c'est assez drôle parce que ça s'appelle Ritual of the Night. À un mot près ça sonne comme Castlevania Symphony of the Night. Donc clairement c'est le, de toute façon le Kickstarter le dit, c'est le même jeu. Et c'est une méthode qui est assez différente de ce dont on a parlé avant. Puisque là, ça consiste très clairement à non pas chercher de l'argent pour faire le jeu, mais à vendre en fait le jeu, à faire de la com et à dire aux gens voilà, on a un jeu, il va être fait, vous pouvez l'acheter dès à présent. Puisque là, les pledges, on voit qu'ils ont été prévus bien à l'avance. Il a prévu jusqu'aux 3 millions, peut-être jusqu'aux 4 millions les stretch goals. Et le Kickstarter sert avant tout, à mon avis, à vendre le jeu à des gens qui veulent dès à présent le précommander, au-delà qu'à le financer. Et d'ailleurs, c'était super intéressant de voir quelques jours après le lancement de la campagne, il y a eu bien évidemment cette flame totale sur Internet avec les gens qui se plaignaient, ouais, mais le projet a trop d'argent, c'est nul, ouais, de toute façon c'est qu'un Castlevania, je sais pas pourquoi il a autant d'argent alors que d'autres projets peinent à avoir de l'argent. Donc il y a eu tout un débat sur NeoGAF par exemple, où il y a eu un topic avec des dizaines de pages, c'était impressionnant. Et quelques jours après, il y avait un article de Polygon qui parlait justement du financement participatif et du fait que le Kickstarter bien souvent ne couvre qu'une seule partie du financement, et à côté voilà, il y a plein d'autres frais qui sont pas annoncés dans le Kickstarter. Et là pour moi, ils avaient clairement l'argent pour faire le projet à la base. C'est un projet qui aurait pu aussi sortir avec un éditeur, hein, mais le Kickstarter pour moi voilà est là pour vendre le jeu avant tout, et pas forcément pour avoir de l'argent. C'est tout ce qu'ils ont là, c'est que du bonus. Et voilà, derrière ils ont les fonds, ils ont le budget, ils ont l'équipe, ils ont absolument tout selon moi. Et voilà, c'est avant tout là que pour vendre quoi.
On va devoir enchaîner tout de suite avec Jeff et avec Ukulele. Ukulele qui est le jeu de Playtonic Games, des anciens de Rare, qui s'attaque donc à littéralement faire Banjo-Kazooie 3 sans la licence Banjo-Kazooie. Ils ont la police d'écriture, ils ont le duo de personnages, ils ont l'univers, ils ont Grant Kirkhope pour faire la musique, mais c'est juste pas licencié Banjo-Kazooie. On aurait pu parler du fait que le jeu aura lieu anyway, c'est ce qu'ils avaient annoncé, le jeu aura lieu même si on n'atteint pas notre objectif. Ils l'ont dépassé avec une vigueur assez incroyable. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est éventuellement possible que nos amis de Rare présentent un projet relativement similaire, présentent probablement un jeu dans les prochains mois, puisque c'est ce que certains exécutifs de Microsoft avaient déclaré il y a pas longtemps. Donc la question qui se pose, c'est le cas de figure concurrentiel de deux jeux qui se ressemblent par des boîtes qui sont plus ou moins liées par un même historique, dont un qui est financé par les fans et l'autre qui est financé par Microsoft, qui est une des plus grosses, une des plus grosses boîtes de l'industrie, il faut bien le dire. C'est quand même étrange comme cas de figure, c'est assez unique. Comment tu vois ça venir, Jeff, pour le coup, cette espèce de combat de titans?
C'est biblique, hein, c'est David contre Goliath, c'est... Non, mais je trouve ça assez fou qu'on... Enfin, comment on aurait pu se dire il y a quelque temps que, justement, on pourrait même... Enfin, on peut pas rentrer en rivalité, mais qu'on pourrait monter des projets avec du public, rien qu'avec des consommateurs, avec des petits porte-monnaies, qui seraient sur le même... terrain, sur la même sur le même game que justement des boîtes comme Microsoft, etc. Je pense que là on en est vraiment sur une mutation de la façon dont les joueurs pensent et ont envie de soutenir, de participer à leur jeu, la façon dont aussi les joueurs consomment leur jeu, parce que au final ça va, enfin le fait d'impliquer ça, tu consommes évidemment différemment le jeu que tu as à créer, tu y mets un peu plus de cœur, etc. Et moi je trouve ça pas plus mal, ça montre quand même qu'il y a une grosse opportunité pour certains que de faire des trucs comme ça. Je me demande même si un jour on verra pas des studios de jeux qui ne feront que ça, qui feront que du projet Kickstarter ou qui feront que ce genre de truc. C'est quelque chose qui, selon moi, pourrait arriver.
Ça te semble éventuel. C'est aussi intéressant de voir, finalement, si ça arrive, c'est que Ukulele sera présent sur quasiment toutes les plateformes que la Terre a vu porter. Là, ils vont être sur PS4, sur PC, sur Xbox One, sur Wii U, sur tous les OS sous PC. Si Rare sort un truc, ce sera sous Xbox One. Peut-être sous Windows 10, mais alors peut-être, et c'est même pas dit. Et c'est tout. Donc là aussi, c'est une question assez intéressante. Au final, il pourrait s'écouler plus de Ukulele que du prochain projet de Rare, ce qui est quand même assez fou. Bon, ça c'est une autre question.
Ben, on est dans la mouvance, quoi. On est clairement dans le truc où maintenant Kickstarter c'est devenu un acteur incontournable du jeu vidéo. Et à partir du moment où t'as un projet qui, comme celui-là, commence à bien rouler, parce que là, c'est genre 10 fois plus que ce qu'ils ont prévu, quoi. Donc c'est quelque chose qui roule plutôt bien. Ben tu peux avoir un truc qui explose complètement et qui fait un carton. Donc moi ça ne m'étonne même pas.
Mais d'ailleurs, justement, juste pour rebondir sur la dernière phrase de Jeff, on voit que le financement participatif est devenu un levier tellement important dans le jeu vidéo aujourd'hui, qu'il y a même eu aujourd'hui justement un phénomène d'actualité. Et il y a eu Lego Worlds qui est sorti sur Steam, donc en accès anticipé, donc aussi on pourrait revenir éventuellement tout à l'heure. L'accès anticipé, qui est aussi une forme de financement participatif tout au long du développement. Donc voilà, on voit que même les plus gros s'y mettent, c'est dingue, c'est devenu une véritable mode.
C'est assez fou, effectivement. On va passer à A Hat in Time, qui est très intéressant parce que finalement c'est Ukulele avant Ukulele. C'est le côté, on va refaire un jeu de plateforme à la Nintendo 64, à la Rareware. Mais alors là, pour le coup, complètement sans aucune personne de Rare, hein, simplement en étant fan du projet, le jeu étant cel shading. Le jeu, à voir des vidéos de gameplay aujourd'hui, a quand même plutôt un balai dans le cul, il faut être très honnête. Mais c'est quand même intéressant de voir que là pour le coup ça apporte des mondes supplémentaires, ça apporte un New Game Plus, ça apporte un guest compositeur et c'est de nouveau notre ami Grant Kirkhope. Donc là on retrouve la patte Rare. A Hat in Time il a été financé mais il est pas encore sorti, il a des chances de se faire bouffer par Ukulele
s'il sort un jour déjà. parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on l'attend. Je crois que c'était 2013 la campagne, si je dis pas de bêtises, et la bêta a été lancée seulement il y a pas longtemps.
longtemps. Maintenant, je doute que Yooka-Laylee et Art in Time se bouffent un petit peu la tronche. Mm-hmm. Le public est similaire, mais justement, il y a tellement peu, de projets qui viennent recréer justement cette ambiance propre au jeu 3D de la Nintendo 64, que finalement les gens qui aiment Yooka-Laylee auront vite fait de aussi jouer à Hat in Time et de l'apprécier, et d'apprécier autant l'un que l'autre. Donc je pense pas qu'ils vont forcément se bouffer la tronche ces projets, et c'est peut-être une bonne chose finalement qu'il y ait de plus en plus de projets comme ça, pas trop, parce que surfer sur les succès de jeux dès la sortie, c'est pas forcément super bien d'un point de vue éthique si les projets comme ça viennent à se multiplier, mais c'est intéressant pour les fans et c'est intéressant pour les nostalgiques de cette époque-là. Donc non, je pense que tout ira bien pour les deux projets si jamais les deux projets sortent, ce qui n'est pas à gagner.
C'est pas la même chose que si c'était un énième roguelike sur PC. Oui,
ça par contre, tu vois, enfin moi j'y crois pas du tout à la cannibalisation des jeux comme ça entre, pour moi, des petits jeux, enfin à la limite.
Perdu Jeff, des petits jeux à la limite. Des petits jeux à la limite.
Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Des petits jeux à la limite. Je pense vraiment pas que deux jeux comme ça qui soient aussi petits dans le sens en termes de d'objectifs puissent se bouffer l'un l'autre. Ça c'est vraiment pour moi des gros trucs peuvent se bouffer. Genre, t'as un Call of Duty et t'as un Assassin's Creed qui sortent le même mois. Là, Pépito, il sait pas quoi acheter, il stresse, il tire 2-3 gouttes, etc. Il peut plus. Mais sur ce genre de jeu-là, je pense pas que ce soit possible qu'il y ait vraiment un conflit entre les deux. Je pense que c'est très complémentaire pour moi.
Et puis clairement, en plus, on voit parfois des Kickstarter qui soutiennent d'autres Kickstarter et demandent aux backers justement d'aller vers d'autres Kickstarter pour soutenir des gens qui sont concrètement dans la même merde qu'eux. Donc je pense que les indépendants n'ont absolument rien à gagner à se concurrencer, à se bouffer la tronche. Ils ont tout à gagner à se mettre en avant l'un l'autre et à se soutenir.
Et on l'a vu avec Yooka-Laylee, où maintenant ils font de la promo pour des autres projets, donc c'est assez sympathique de leur part. On a aussi eu, et ça c'est très intéressant, Superhot qui s'est mis en financement participatif. C'est intéressant, pourquoi? Eh bien parce que le jeu va sortir sur Xbox One et qu'on l'a vu dans un mélange de trailers à la dernière conférence Microsoft, et c'est un petit peu gênant. Alors on avait déjà le problème des indépendants qui débarquent dans les grosses conférences type 3 ou Gamescom. Là on a carrément un jeu qui a été financé par les joueurs qui se retrouve dans extrêmement mis en avant par un éditeur. Est-ce que ça c'est un problème?
Je vois pas personnellement en quoi ce sera un problème, dans le sens où alors Superhot, c'est un, donc faut mettre dans le contexte, c'est un petit jeu qui avait été fait lors d'une jam qui s'appelle la Seven Days FPS pardon. Donc ça propose à des petites équipes de faire un FPS pendant 7 jours, d'où le nom. Et donc là du coup ils avaient sorti un prototype qui a tellement bien marché qu'ils se sont dit ouais, on va faire un Kickstarter après ça, qui a aussi très très bien marché. Ils ont explosé le budget en quelques jours. Ils ont même fait une campagne Greenlight qui avait été, je crois, à l'époque, la campagne Greenlight la plus rapide de tous les temps, en seulement 5 jours. C'est hallucinant. Tout a marché pour le projet, il a absolument tout explosé. Et donc, ça prouve aussi, encore une fois, que des projets qui naissent très petits, donc là qui naissent finalement d'une jam, peuvent intéresser suffisamment de monde et mettre en avant des concepts intéressants. Et Kickstarter, là, à ce moment-là, sert de faire valoir, si je puis dire. On arrive près d'un éditeur, on lui dit voilà, on a récolté tant sur Kickstarter. L'éditeur est là, waouh, en fait vous avez du succès, on va vous éditer, go sur Xbox. Donc là je crois que ça sort avec le ID Xbox, qui est le programme de pour les indés sur la Xbox, qui soutient justement les développeurs indés. Donc c'est une très bonne chose que des petits projets comme ça aient tellement de succès qu'ils puissent être mis en avant à l'E3 et à la Gamescom. Non, pour moi c'est une très bonne nouvelle, et j'aimerais même personnellement qu'il y ait encore plus de projets qui soient mis en avant de la sorte.
Donc c'est beaucoup plus un geste galant de la part de Microsoft que de la compromission de la part des mecs de Superhot.
Pas forcément galant, parce qu'après eux ils se font des thunes aussi là-dessus, et ils ont, enfin comment dire, ils soutiennent ça comme n'importe quel indépendant, et leur démarche à eux, c'est plus de mettre en avant beaucoup beaucoup d'indépendants pour finalement attirer les indépendants chez eux plutôt que chez Sony, on va le dire. Donc sinon c'est pas forcément galant, mais
c'est voilà. Permis de montrer qu'il y a des jeux sur Xbox One, ce qui est une bonne chose.
Très
finalement.
Clairement, voilà, aussi ouais.
Ce qui est, ils en ont bien besoin. Non pas que Sony n'en ait pas besoin aussi, ils en ont aussi besoin de montrer qu'ils ont des jeux sur leur plateforme. Dernier truc par rapport à Superhot qui est aussi assez intéressant, parce que substantiellement une de leurs déclarations lorsqu'ils ont lancé leur Kickstarter, c'était bah voilà, on a besoin d'argent pour continuer à développer le jeu parce qu'on est simplement pas content de la copie qu'on a pour l'instant chez nous. On a commencé à bosser sur le jeu, mais là on n'est pas satisfait, on a besoin simplement de plus de temps de développement et on a besoin de votre thune pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire vivre le studio pendant le temps nécessaire à bah voilà, à avoir un bon jeu tout simplement. C'est assez intéressant. Un truc par contre qui n'a pas mené vers un bon jeu et qui heureusement n'a pas mené vers de jeu du tout, c'est Night Trap Revamped. Alors là par contre on a effectivement besoin de mettre un petit peu de contexte. À la base Night Trap c'est ce jeu Sega CD qui avait fait un grand scandale aux États-Unis puisque en gros pour faire simple c'était un simulateur d'ouverture de trappe où en gros on contrôlait des caméras et on contrôlait avec les boutons des trappes et tout le jeu était en vidéo, c'est-à-dire vidéo interactive, une sorte de maison géante dans laquelle tu circules et où il se passe des trucs dans tous les sens. C'est assez incompréhensible à jouer parce que il faut avoir des réflexes de fou et connaître le truc par cœur pour être très honnête. Pour le réussir, il faut limite avoir un guide sous les yeux et donc une petite équipe de petits filous qui ont récupérer les droits de Night Trap, ont décidé de présenter le projet Night Trap Revamped et malheureusement, ils n'ont récupéré que 12% des fonds espérés qui étaient d'un minimum donc de $330,000 pour Night Trap qui est, je le rappelle, une sombre merde. C'est certes une pièce importante de l'histoire du jeu vidéo parce que c'est notamment ça qui a mené à la création de l'ESRB, qui est la PEGI américaine, donc l'organisme de régulation... et de notation surtout du jeu vidéo en termes de tranche d'âge et en termes de classification de contenu, mais voilà, grosse polémique politique autour de ça. Night Trap est un danger public, le jeu vidéo c'est mal, mais derrière le jeu est pas d'un grand intérêt et le Kickstarter s'est pris un four et ça rappelle cette tendance, là évidemment c'est caricatural, mais de crowdfunding du créateur qui revient 30 ans après pour te dire écoute j'ai une idée qui ressort comme un beau diable de sa boîte. Ça peut à mon avis amener du bon comme du moins bon. Il n'y a pas de tendance générale par rapport à ça. On peut avoir aussi bien de bonnes surprises que de mauvaises, non?
Ah oui, puis même c'est pas que sur le jeu vidéo. Hein. Je vous invite à aller sur Indiegogo dans les nouveaux projets que vous avez invités, etc. J'en parle régulièrement dans mon émission. On a même une rubrique rien que pour ça. Il y a du bon bullshit. Et honnêtement, ça s'adresse pas qu'aux vidéos. Je pense pas qu'on a besoin de s'étaler non plus sur Night Trap. À mon avis, c'est juste des types qui se sont dit on va acheter le nom, on va se faire du blé et puis ça a fail. Voilà.
Exactement, et tant pis pour eux. Une dernière question que j'avais prévue, ensuite on passe aux questions des auditeurs jusqu'au bout de l'émission. Question donc importante, on parlait de la France et de l'importance que ce modèle participatif peut avoir. Kickstarter s'est lancé en France il y a vraiment pas longtemps. Est-ce que ça change quelque chose?
Je sais pas si ça change quelque chose. En tout cas, j'espère que ça change quelque chose. Enfin, que ça changera quelque chose. Dans un pays comme le nôtre, où on a tellement peur d'investir, où l'investissement passe par les banques, le métier de business angels qui n'existe pratiquement pas. J'ai entendu des discours de Axel Tessandrier qui est la... Je crois que c'est celle qui s'occupe de Kickstarter France. Je dis peut-être des conneries. Et c'est très encourageant. J'espère vraiment que ce genre de truc va un petit peu nous amener ce côté-là de dire vous pouvez investir dans ce que vous aimez, vous pouvez participer et vous pouvez vous bouger le fion et on essaie de créer des trucs en France et pas seulement recevoir ce que les États-Unis ou les autres pays du globe nous donnent. Donc ouais, j'espère. Je sais pas si ça va changer les choses. Je pense pas, mais c'est un vœu pieux en tout cas de le penser comme ça.
Elle a bossé autour de Kickstarter, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu son LinkedIn, et elle a notamment bossé en tant que stagiaire chez M6, il y a bientôt 10 ans. C'est une petite découverte. Oui,
je voulais ajouter juste, donc je suis, encore une fois, je suis d'accord avec avec Jeff. Mm-hmm. Je pense pas que ça change fondamentalement la donne par rapport à Kickstarter, d'autant que avant que Kickstarter n'arrive en France, beaucoup de créateurs français, donc alors moi, je suis principalement le domaine du jeu vidéo, et du coup là-dedans il y avait pas mal de créateurs qui passaient par un site qui s'appelle Bridge Starter pour créer une boîte, si je dis pas de bêtises, en gros pour se créer une boîte postale et un compte au Canada.
Ouais.
Pour donc en gros faire si vous voulez un genre de point de passage pour pouvoir arriver finalement à Kickstarter et passer légalement par le Canada. Ce qui a permis à pas mal de projets d'être financés, donc des projets français d'être financés au Canada, donc via ce site. Donc je pense pas que ça change fondamentalement la donne, si ce n'est que ça fait moins de paperasse. Oui. Mais par contre, comme l'a mis en avant Jeff, je me demande comment est-ce que sur le long terme, comment est-ce que la juridiction française va, alors si elle le fait, va finalement recevoir cette nouveauté-là. Est-ce que ça va créer des conflits? Est-ce que les lois vont est-ce que des gens vont servir des lois? Alors je sais pas du tout comment ça va se passer.
Au mais niveau ça peut être intéressant. Législatif, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur le début d'année où ça en parlait énormément, de modifier justement la législation et dans un autre sens de pouvoir protéger les gens qui investissaient là-dedans, les consommateurs, c'est dans le sens où on se fait pas arnaquer, etc. Mais je ne fais pas parler de politique dans l'émission, mais disons que pour un gouvernement socialiste, j'aurais préféré que le financement participatif, social, etc. aurait été plus mis en avant. C'est dommage. Je pense que c'est vraiment un coup à prendre là-dessus, mais j'ai l'impression que l'État a pas trop envie de se bouger le fion.
Bon, allez, il reste 2 ans de quinquennat. On va attendre. on va prendre quelques questions d'auditeurs pour terminer. Et d'abord une réaction et même un encouragement de Darkubi qui vous propose d'aller voir Power Drive 2000. Il leur manque $7,000 en 48 heures. Donc allez voir le projet sur kickstarter.com, il a mis le lien au hashtag le Player Club il y a un petit moment maintenant. Darkubi pour Power Drive 2000, allez voir si le jeu vous plaît. Bah voilà, ce sera l'occasion de donner, et s'il vous plaît pas, eh bien ne donnez rien, faites les radins. Lions Banner qui demande comment font les développeurs pour gérer les attentes des fans d'un projet crowdfunding où le succès est inespéré, et là ça pose la question du community management, je pense.
Alors, sa question, alors du coup, la question, si j'ai bien compris, c'est comment est-ce que les développeurs font, alors si jamais leur projet a plus de succès qu'ils
l'espéraient. Que prévu. Voilà, vraiment, le truc décolle complètement, c'est 1 million, c'est 2 millions.
Je pense que ce genre de problématique est assez rare, puisque finalement, si on a un développeur et qu'on lance un Kickstarter, déjà, faut pas être stupide, il faut avoir des notions de base quand même en marketing et en gestion de budget, pardon. Ouais. C'est le terme que je cherchais. Et tu vas pas commencer à lancer une campagne, pour $20,000 si tu sais très bien que ton jeu va en coûter beaucoup plus ou beaucoup moins. Faut calculer précisément la part de Kickstarter dans le budget de ton jeu. Donc finalement, les campagnes qui ont beaucoup plus de succès qu'espérées, si jamais ça arrive, je pense que finalement ça reste assez fluide, et la communauté qui suit le jeu communique régulièrement avec les développeurs, et voilà, si tout se passe bien, y a pas de raison que le développeur soit dépassé par les événements. Et encore une fois, ça ne tient qu'à lui de mettre à la base un objectif qui correspond à la fois à ses besoins et aux attentes aussi des consommateurs. C'est tout un art, je dirais, tout un travail en amont de choisir le bon objectif. Et encore une fois, ça nous renvoie à une problématique qu'on soulevait tout à l'heure avec toi et Jeff, justement de savoir s'il y aura besoin de faire une deuxième campagne après la première campagne, si jamais on a pas assez d'argent. C'est tout un problème à ce niveau-là.
On est short niveau temps, je vais vous demander une réponse binaire pour cette dernière question de Darkubi. Est-ce qu'on peut considérer l'Early Access comme du crowdfunding, Valentin?
Pour moi, oui, puisque encore une fois, la question-là, c'est juste, je voulais mettre en rapport avec Minecraft, qui est pour moi le premier projet vraiment qui a fait de l'Early Access, et pour moi qui a lancé toute cette mode de l'Early Access, et c'est finalement la même chose qu'un Kickstarter, c'est juste financer le jeu, non pas sur une période de temps donné, mais sur tout le développement. Donc pour moi, c'est pareil.
D'accord. Et toi, Jeff?
Pareil pour moi.
pareil pour toi. Très bien. Merci à vous deux d'avoir été là ce soir dans cette émission. Je rappelle,
merci à toi.
Valentin, qu'on te retrouve at blazingsboob sur Twitter, sur indius.org, évidemment aussi sur Naufrag. Quant à toi, Jeff, on te retrouve at Jeff Quaderi sur Twitter. Tu es aussi évidemment dans le podcast Geek Inc. et dans le podcast Ask My Bakers. Merci à vous deux d'être venus ce soir.
Merci de l'invitation.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté évidemment ce numéro du Player Club, qui est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Un remerciement tout particulier à Alvin, à Alex le serveur et à Fox qui ont produit 6 semaines de Player Club pendant que j'étais absent. Merci à vous trois. Merci,
merci à toi. C'était un plaisir de nous proposer de te remplacer.
Merci du fond du cœur. Je pouvais pas imaginez laisser l'émission à des gens plus qualifiés pour le faire. Ça a été un plaisir simplement de voir prendre les sujets que je vous avais proposés, de les traiter. C'était nickel. Merci encore, merci infiniment. Et maintenant, après ces remerciements et ces bises, voilà, ces accolades franches et viriles, on se retrouve avec Coco B et avec l'équipe de Passe le Stick.
Salut Inks, ça va bien?
Eh ben écoute, ça va pas mal. Moi je suis heureux d'être de retour et je suis heureux de te passer l'antenne.
Bah merci, d'autant que c'est la dernière régulière de cette saison de Passe le Stick.
C'est la numéro combien?
99, donc vous pouvez vous douter que ça sera pas tout à fait la dernière de cette saison,
mais oui,
en tout cas, régulière, mais on en parlera en fin d'émission, donc restez pour avoir les infos, sinon vous n'aurez pas les bails et vous serez bien eu, voilà, pour pas dire autre chose.
J'ai entendu dire que la 100ème ce serait une spéciale ordre du temple solaire et qu'on avait tous se suicider.
Oui, c'était le principe.
Mais d'accord, bah j'ai spoilé. Ah bah tant pis.
Je voulais franchement que tu gardes le secret, mais puisque t'as décidé de faire ton FDP, bah on va faire les FDP.
Bah voilà, merde.
Lors d'une émission, est-ce qu'il arrive à Inks? Bravo.
Tant qu'à spoiler, moi aussi je vais dire que je vais spoiler. Au début, je fais une quête, je récupère l'argent et la seule pilule de cyanure où il y a un placebo, c'est la mienne. Bon,
bah voilà. Scandale, scandale. Il y a qui avec vous ce soir?
Alors, nous avons Freeman, un jeune développeur français.
Un jeune cuisinier.
Salut.
Et un cuisinier qui fait des
trucs
maquis.
Et en fait, c'est Paul Cuisinier.
Et vous aurez reconnu ce rire, c'est également Pipo Mantis.
Hello.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah écoute, en même temps, confondre les gens. Moi, j'ai confondu Shai et Rénal pendant l'émission tout à l'heure.
Ah, bravo.
On n'est pas à ça près. On n'est pas à ça près.
Je suis sûr qu'il existe Frédéric Shai de toute façon.
Allez, bonne émission à vous.
Merci Inks.